Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 9 sur 24.
En cette occurrence, il ne voulait pas compromettre sa dignité paternelle. Il prit délicatement une prise de tabac et toussa deux ou trois fois comme s'il se disposait à demander l'appel nominal. Il entendait le pas léger de sa fille qui entra en fredonnant un air d'Il Barbiere. « Bonjour mon père, que me voulez-vous donc si matin ?» Après ces paroles jetées comme la ritournelle de l'air qu'elle chantait, elle embrassa le comte, non pas avec cette tendresse familière qui rend le sentiment filial chose si douce, mais avec l'insouciante légèreté d'une maîtresse sûre de toujours plaire quoi qu'elle fasse. « Ma chère enfant, » dit gravement Monsieur de Fontaine, « je t'ai fait venir pour causer très sérieusement avec toi sur ton avenir. La nécessité où tu es en ce moment de choisir un mari de manière à rendre ton bonheur durable. « Mon père !» répondit Émilie en employant les sons les plus caressants de sa voix pour l'interrompre. « Il me semble que l'armistice que nous avons conclu relativement à mes prétendus n'est pas encore expiré. »« Émilie, cessons aujourd'hui de badiner sur un sujet si important. Depuis quelque temps, les efforts de ceux qui t'aiment véritablement, ma chère enfant, se réunissent pour te procurer un établissement convenable, et ce serait être coupable d'ingratitude que d'accueillir légèrement les marques d'intérêt que je ne suis pas seule à te prodiguer. » En entendant ces paroles et après avoir lancé un regard malicieusement investigateur sur les meubles du cabinet paternel, la jeune fille alla prendre celui des fauteuils qui paraissait avoir le moins servi au solliciteur. La porta elle-même de l'autre côté de la cheminée, de manière à se placer en face de son père. Prit une attitude si grave qu'il était impossible de n'y pas voir les traces d'une moquerie et se croisa les bras sur la riche garniture d'une pèlerine à la neige dont les nombreuses ruches de tulle furent impitoyablement froissées. Après avoir regardé de côté et en riant la figure soucieuse de son vieux père, elle rompit le silence. « Je ne vous ai jamais entendu dire, mon cher père, que le gouvernement fit ses communications en robe de chambre. Mais, ajouta-t-elle en souriant, n'importe, le peuple ne doit pas être difficile. Voyons donc vos projets de loi et vos présentations officielles. Je n'aurai pas toujours la facilité de vous en faire, jeune folle. Écoute, Émilie, mon intention n'est pas de compromettre plus longtemps mon caractère, qui est une partie de la fortune de mes enfants, à recruter ce régiment de danseurs que tu mets en déroute à chaque printemps. Déjà, tu as été la cause innocente de bien des brouilleries dangereuses avec certaines familles. J'espère que tu comprendras mieux aujourd'hui les difficultés de ta position et de la nôtre. Tu as 22 ans, ma fille, et voici près de 3 ans que tu devrais être mariée. Tes frères, tes deux sœurs sont tous établis richement et heureusement. Mais, mon enfant, les dépenses que nous ont suscitées ces mariages et le train de maison que tu fais tenir à ta mère ont absorbé tellement nos revenus qu'à peine pourrais-je te donner 100 000 francs de dot. Dès aujourd'hui, je veux m'occuper du sort à venir de ta mère, qui ne doit pas être sacrifiée à ses enfants. Émilie, si je ne venais à manquer à ma famille, Madame de Fontaine ne saurait être à la merci de personne et doit continuer à jouir de l'aisance par laquelle j'ai récompensé trop tard son dévouement à mes malheurs. Tu vois, mon enfant, que la faiblesse de ta dot ne saurait être en harmonie avec tes idées de grandeur. Encore sera-ce un sacrifice que je n'ai fait pour aucun de mes enfants, mais ils se sont généreusement accordés à ne pas se prévaloir un jour de l'avantage que nous ferons à un enfant trop chéri. Dans leur position ? Dit Émilie en agitant la tête avec ironie. « Ma fille, ne dépréciez jamais ainsi ceux qui vous aiment. Sachez qu'il n'y a que les pauvres de généreux. Les riches ont toujours d'excellentes raisons pour ne pas abandonner 20 000 francs à un parent. Eh bien, ne boude pas, mon enfant, et parlons raisonnablement. Parmi les jeunes gens à marier, n'as-tu point remarqué Monsieur de Manerville ?» Oh, ils disent eux au lieu de je. Ils regardent toujours son pied parce qu'ils le croient petit et ils se mirent. D'ailleurs, il est blond, je n'aime pas les blonds. Eh bien, monsieur de Beaudenord. Il n'est pas noble, il est mal fait et gros. À la vérité, il est brun. Il faudrait que ces deux messieurs s'entendissent pour réunir leur fortune et que le premier donnât son corps et son nom au second qui garderait ses cheveux. Et alors, peut-être... Qu'as-tu dire contre monsieur de Rastignac ? Madame de Nucingen en a fait un banquier, dit-elle malicieusement. Et le vicomte de Portenduère, notre parent ? Un enfant qui danse mal, et d'ailleurs sans fortune. Enfin, mon père, ces gens-là n'ont pas de titre. Je veux être au moins comtesse comme l'est ma mère. Tu n'as donc vu personne cet hiver qui... Non, mon père. Que veux-tu donc ? Le fils d'un pair de France. Ma fille, vous êtes folle ! Dit monsieur de Fontaine en se levant. Mais tout à coup, il leva les yeux au ciel, sembla puiser une nouvelle dose de résignation dans une pensée religieuse, puis, jetant un regard de pitié paternelle sur son enfant qui devint ému, il lui prit la main, la serra et lui dit avec attendrissement « Dieu m'en est témoin, pauvre créature égarée. J'ai consciencieusement rempli mes devoirs de père envers toi. Que dis-je consciencieusement ? Avec amour, mon Émilie. Oui, Dieu le sait, cet hiver j'ai amené près de toi plus d'un honnête homme dont les qualités, les mœurs, le caractère m'étaient connus et tous ont paru dignes de toi. » Mon enfant, ma tâche est remplie. D'aujourd'hui, je te rends l'arbitre de ton sort, me trouvant heureux et malheureux, tout ensemble de me voir déchargé de la plus lourde des obligations paternelles. Je ne sais pas si longtemps encore tu entendras une voix qui, par malheur, n'a jamais été sévère. Mais souviens-toi que le bonheur conjugal ne se fonde pas tant sur des qualités brillantes et sur la fortune que sur une estime réciproque. Cette félicité est, de sa nature, modeste et sans éclat. Va, ma fille, mon aveu est acquis à celui que tu me présenteras pour gendre. Mais si tu devenais malheureuse, songe que tu n'auras pas le droit d'accuser ton père. Je ne me refuserai pas à faire des démarches et à t'aider, seulement que ton choix soit sérieux, définitif. Je ne compromettrai pas deux fois le respect dû à mes cheveux blancs.